France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et l'invité du grand entretien de la matinale est ce matin économiste, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Il a participé à un ouvrage collectif en librairie aujourd'hui aux éditions du Seuil, en compagnie de Yann Algan, Elisabeth Besley et Martial Foucault. Ce livre s'intitule « Les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social ». Amis auditeurs, intervenez évidemment pour dialoguer. 0145 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
On va parler tout à l'heure de l'économie mondiale, en récession ou pas, pour quelles raisons et avec quels risques. Mais donc, d'abord, ce livre sur le populisme, spectre qui hante l'Occident et qui prospère partout, dites-vous dès la première page. Vos co-auteurs et vous ont proposé une étude fouillée qui croise plusieurs disciplines des sciences humaines et des sciences sociales. Mais ce qui frappe, peut-être plus que les tableaux statistiques et les analyses électorales, ce sont des mots « confiance »,« méfiance », »,« peur », »,« colère », comme si le populisme était un registre de passion. Le populisme est-ce aussi, Daniel Cohen, peut-être d'abord des émotions, des sentiments qui traversent très profondément, très intimement les individus ?
Oui, ce sont les deux à la fois. Il y a d'abord un facteur économique, c'est indiscutable. Quand on regarde les causes de la montée partout en Europe, aux États-Unis, évidemment en France aussi, de ces forces anti-système dont parlait Pierre Aski tout à l'heure, indiscutablement, l'insécurité économique, le sentiment de ne pas être sûr de garder son emploi, d'avoir un salaire, d'être propriétaire, toutes ces choses-là sont indiscutablement la cause première, et la crise de 2008 a joué un rôle d'accélérateur de ces passions qu'on appelle anti-système. Maintenant, quand on regarde dans le détail, et quand on essaye de comprendre la montée de la droite populiste, de l'extrême droite un peu partout dans le monde, alors c'est dans un autre registre qu'il faut comprendre d'où ça vient. Et en effet, les passions individuelles, surtout les rapports interpersonnels, voilà. Les rapports à autrui, la confiance dans un rapport...
en autrui ou pas.
Voilà, exactement.
Expliquez-nous la pertinence de ce qui se joue là, le fait d'avoir confiance en l'autre ou de s'en méfier.
Voilà. Eh bien, d'abord, du point de vue statistique, partout où on regarde cet indicateur de confiance interpersonnelle, qui par exemple se mesure par la réponse à une question très simple, vous rencontrez quelqu'un par hasard dans la rue, est-ce que vous pensez qu'il faut se méfier ou est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Ça, partout dans le monde, on va dire occidental, c'est le marqueur absolu qui va permettre de comprendre si la personne va basculer vers la droite ou l'extrême droite, ou si au contraire, si elle fait confiance à autrui, elle va plutôt être dans le versant gauche, et peut-être dans la radicalité de gauche, si par ailleurs elle est frappée par l'insécurité économique.
Ça c'est étudié scientifiquement, je le précise.
Voilà, il y a vraiment beaucoup de banques de données qui sont mises à contribution pour arriver à ce résultat. Quand on dit la confiance à autrui, évidemment, on pense tout de suite aux immigrés, puisque la droite populiste, partout dans le monde, s'est construite sur cette phobie à l'égard des immigrés. On l'a rappelé à propos de l'Italie, c'est évidemment le cas de Trump, et dans une très large mesure. On sait aussi que le Brexit était lié à cette phobie, en l'occurrence il s'agissait des Polonais. Mais quand on creuse, c'est pas juste les immigrés qui sont en jeu. On demande aux électeurs du Front National, est-ce que vous faites confiance à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue ? Est-ce que vous faites confiance à votre collègue de bureau, à vos voisins de palier, à votre beau-frère ? Frère, partout la réponse est toujours la même, cinglante. Non, je suis dans un rapport de méfiance. C'est ce qui nous fait penser qu'au-delà de la crise économique, il y a quelque chose dans la société des individus contemporains, qui fait qu'il y a des perdants de cette société, de personnes qui sont tout simplement désocialisées. Vous vous souvenez certainement, Nicolas, de ce livre extraordinaire qui avait été écrit par Durkheim à la fin du 19e siècle, qui s'appelait Le Suicide, dans lequel il expliquait le suicide comme une désocialisation. Il disait, il y a un suicide égoïste de celui qui est tout seul. C'est quelque chose de même nature, Hervé Lebras le disait aussi, qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'explication de ce populisme de droite, un rapport blessé à autrui qui prend toutes les formes possibles, dont notamment la phobie migratoire, et qui explique que la crise économique, pour certaines catégories de la population, deviennent du populisme de droite, de la xénophobie, un appel aux frontières et toutes les choses qui caractérisent partout cette poussée politique.
La crise des gilets jaunes, Daniel Cohen, vous y consacrez des pages dans ce livre, c'est quoi, à la lumière de tout ce que vous venez de dire?
C'est d'abord le versant économique. Ils se sont les gilets jaunes, c'est un conglomérat de personnes qui, parmi les soutiens très actifs au mouvement, sont surtout des électeurs de Mélenchon et de Marine Le Pen, à plus de 65%. Donc c'est bien de cette radicalité qui a émergé, c'est comme une onde de choc, une réplique de l'onde de choc qui a été créée avec l'élection présidentielle. Donc c'est un mélange de ces deux forces anti-système, c'est d'ailleurs ce qui les unit, détestation du système, des élites, et incarné par le président de la République, Emmanuel Macron. Donc c'est un combiné. On en voit beaucoup dans le Sud-Ouest, on en voit beaucoup dans le Nord-Est, qui sont respectivement les terres de mission de Mélenchon et de Le Pen. Donc, ce qui les unit, c'est en effet l'insécurité économique. Et quand on les interroge sur le rapport à autrui, la xénophobie, l'homophobie aussi, bon, c'est beaucoup plus mélangé parce que c'est un agrégat hétéroclite. Ce qui fait d'ailleurs que ce mouvement s'est mobilisé sur des questions de pouvoir d'achat, de carburant, etc. Mais au fond, n'a pas réussi à proprement parler, à perdurer dans un programme commun parce qu'il était trop hétérogène. C'est d'ailleurs une des conclusions de notre livre, je crois, c'est que l'illusion selon laquelle ces deux radicalités de gauche et de droite pourraient s'unir est vraiment une illusion. Il y a trop de choses qui les distinguent. Le rapport à autrui commande toute une représentation du monde, y compris d'ailleurs les questions de redistribution les opposent, et c'est ce qui nous fait penser qu'il y aurait, au-delà de cette alliance contre les élites, l'idée qu'il y aurait un programme commun possible de ces deux radicalités. Nous, de
l'Italie,
ce qu'on
avant l'explosion de la coalition, ça ne dément pas votre hypothèse.
Non, parce que quand on regarde précisément les électeurs du mouvement 5 étoiles, ce sont des gens profondément méfiants, ce sont des gens dont le rapport sociologique, anthropologique à autrui est également profondément blessé, ce qui explique qu'ils ont pu accepter la politique anti-migratoire, profondément en réalité xénophobe de Salvini. Ils se sont alliés à lui parce que le terreau était là. Le fondateur de 5 étoiles, Beppe Grillo, avait dit les Africains ont ramené la tuberculose en Italie. Donc c'est un mouvement compliqué de ce point de vue-là. Là, il est dans une période de désintoxication pour pouvoir faire une alliance avec le Parti Social-Démocrate, mais non, ça ne le contredit pas de ce point de vue-là.
Beaucoup de questions déjà au standard sur cette question du populisme. Vous décrivez, Daniel Cohen, vous et vos co-auteurs dans le livre, des individus isolés, apeurés, perdus dans le monde moderne, des individus par défaut qu'on pourrait comparer aux individus par excès. Eux sont bien dans le monde et dans le réel tel que ça se passe.
Pas des individus par défaut, c'est un individualisme par défaut. C'est une formule de Robert Castel. C'est pas des individus diminués du tout, mais ils ont un rapport blessé aux autres individus.
Merci infiniment pour cette précision. Mais est-ce que en insistant sur ces passions parfois douloureuses, vous ne mettez pas de côté la ferveur aussi qui porte au pouvoir ces mouvements anti-système, ces partis ou ces mouvements populistes? Il y a peut-être aussi une joie de faire de la politique de cette manière-là, de se battre ensemble. Alors, est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait regarder et vraiment regarder?
Oui, on le regarde aussi. On a un chapitre consacré aux émotions et on distingue la colère et la peur. Et on montre que c'est la colère qui habite les électeurs des deux radicalités, un peu plus celle qui se porte sur Marine Le Pen que sur celle de Mélenchon, qui est un peu plus raisonnable du point de vue de son rapport à la politique, puisqu'elle est construite, elle a en tête au fond de la redistribution, elle a un programme économique, alors que du côté de Marine Le Pen, c'est vraiment la colère contre les élites qui habite ses électeurs. Donc oui, ça en fait partie, ça fait sortir de l'abstention des classes populaires qui, en très grand nombre, ont trouvé la voie de l'abstention. On dit souvent Marine Le Pen est le premier parti ouvrier. Oui et non, c'est-à-dire qu'il fait jeu égal avec les ouvriers qui sont sortis de la vie politique en s'abstenant. Donc on voit bien que là, il y a des forces de mise en concurrence. Vous avez raison, cette colère trouve à s'exprimer indiscutablement, mais le problème, c'est que elle se construit sur un rapport tellement négatif à autrui, à la vie sociale, au fond, et même à la vie politique, que ça rend très difficile d'imaginer autre chose qu'une politique de la peur et du ressentiment. Mmh. Regardez ce que fait Trump depuis qu'il est élu. Il ne fait que se chercher des ennemis. Et des ennemis qui peuvent être les Mexicains, qui peuvent être les Chinois, qui peuvent être les Iraniens. C'est tout de même une politique
mais
économique
il a peut-être
de la terre
été
brûlée.
Élu.
Elle agite la colère, c'est
il
vrai.
A peut-être, lui comme d'autres, été élu parce qu'il parlait une autre langue, parce qu'il donnait le sentiment qu'il était possible de faire de la politique, qu'il était possible d'agir, que la volonté avait peut-être à nouveau sa place en politique et que la politique n'était pas simplement la gestion technocratique du réel. Est-ce que ça, quand on analyse le populisme, il faut pas se mettre devant cette question?
Mais bien sûr, bien sûr. Encore une fois,
ils font de la politique.
Oui, mais encore une fois, je crois qu'il faut distinguer deux niveaux d'analyse. Il y a une montée des forces anti-système, une détestation des partis politiques traditionnels, et en effet, il faut rapporter cette montée de la détestation des élites et des partis traditionnels à l'aune de l'échec de ces partis à apporter une solution économique aux classes populaires, aux classes moyennes inférieures. On vit depuis 10 ans, depuis 20 ans, un déclassement des classes moyennes, des classes populaires, qui est le terreau de tous ces mouvements. Ça, c'est indiscutable. D'ailleurs, dans nos analyses, on montre que la méfiance à l'égard d'autrui, elle est profondément nourri par le déclassement des personnes. Si vous êtes dans une situation sociale inférieure à celle de vos parents, vous allez être profondément méfiant vis-à-vis de la société et donc vous allez nourrir les forces de ces partis. Donc indiscutablement, en amont, il ne faut jamais l'oublier, en amont, il y a cette crise économique et l'impossibilité, l'incapacité où se sont trouvés tous les partis de gouvernement qui se sont succédés à apporter une réponse réelle à la situation de délitement de la vie économique de ces personnes. Après, comment ces passions se répartissent dans l'espace politique, c'est là que la société des individus, c'est là où on cite Hannah Arendt, et c'est un clin d'œil d'ailleurs au livre d'Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, notre livre Les origines du populisme. Hannah Arendt disait, pour comprendre la montée des forces totalitaires dans les années 30, il faut comprendre qu'on est passé, disait-elle, d'une société de classe à une société de masse. Société de classe, une société organisée dans laquelle chacun sait qu'il appartient à un groupe qui le porte en quelque sorte. Et la société de masse, disait-elle, c'est des individus isolés qui subissent chacun individuellement la crise économique sans comprendre que c'est une crise sociale. Ce n'est pas eux qui sont coupables, mais c'est d'une certaine manière la société. Je crois que ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui subissent la crise économique dans leur fort intérieur et puis qui n'arrivent plus à avoir la conscience collective du fait qu'on pourrait y remédier ensemble et qui donc sont dans une forme de nihilisme, de détestation de la société qui explique, je crois, en grande mesure le vote pour la droite populiste.
Le spectre du populisme hante l'Occident, dites-vous. Le spectre des années 30 parcourt un peu votre livre. Que pouvez-vous en dire de plus clair et net?
Je pense que ça...
Comparaison n'est pas raison, ou alors quand même, il faut regarder les choses... éventuellement, quitte à être inquiet.
D'abord, ça n'a pas la même force que dans les années 30. Dans les années 30, on a eu un quart de la population allemande, américaine, qui a été en crise, qui a été au chômage. C'est quelque chose sans précédent. Nous avons des amortisseurs, nous avons l'État-providence, donc ça n'a pas la même ampleur. Je crois que les mécanismes sont de même nature. Des individus qui, il y a encore 30 ans, 40 ans, étaient dans une société industrielle qui était inclusive, avec des syndicats puissants, avec des partis communistes puissants qui pouvaient porter haut la voix des classes populaires. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Donc oui, il y a une forme de nihilisme politique qui ressemble beaucoup à la manière dont les classes populaires ont rejoint les partis d'extrême droite totalitaires dans les années 30.
Vous dites, Daniel Cohen, dans ce livre, que c'est la grande crise de 2008 qui marque l'origine, ou en tout cas la montée en puissance, voilà, l'accélérateur du moment populiste. J'aimerais donc vous poser quelques questions sur la situation économique 11 ans après, aujourd'hui, en 2019. Citation, Jean-Claude Trichet, ancien gouverneur de la Banque de France et de la Banque centrale, voilà la BCE, la Banque centrale européenne, qui dit au JDD la récession est inéluctable, elle viendra des États-Unis et frappera durement l'Europe. Ça, voilà, il parle de nous aujourd'hui. Partagez-vous le constat? Est-ce que l'économie mondiale est en train de ralentir? Et est-ce qu'on va en payer le prix fort?
Je suis absolument d'accord avec les diagnostics, sauf que je pense que la récession, elle viendra d'Europe d'abord, avant de venir des États-Unis. L'Allemagne est en récession, l'Italie est en récession, le Royaume-Uni est en récession à cause des histoires du Brexit, enfin au sens où la croissance va être négative pendant 2 trimestres consécutifs. Donc techniquement, c'est l'Europe qui va être l'épicentre de cette crise. Alors évidemment, les États-Unis, on le sait tous, sont dans une situation de fragilité. Trump a baissé les impôts brutalement. Évidemment, ça a relancé la croissance économique. Il a fait croire que c'était durable, alors que pas du tout. La relance a duré le temps qu'a duré la montée en puissance du déficit. Et dès que ça s'est arrêté, eh bien, la croissance a ralenti. Donc oui, il y a une zone de grande fragilité aux États-Unis. On voit que la croissance ralentit.
On est entré en récession.
On est en train, très très lentement, mais très sûrement, de connaître une période de récession nouvelle. La question est de savoir si ça sera juste un petit moment, quelques trimestres comme ça, où les choses vont ralentir, ou si les forces vont se mettre en place, qui vont nous ramener peut-être pas à la crise de 2008, parce que c'était une crise financière sans précédent, mais déjà, alors même que les plaies ne sont pas cicatrisées, nous remettent en situation de devoir faire face à la montée du chômage, des choses comme ça. Là, dans le corps fragile de nos sociétés aujourd'hui, le corps fragile politiquement de nos sociétés aujourd'hui, ce serait une très mauvaise nouvelle. Il serait temps qu'en Europe en particulier, on réfléchisse à de nouvelles politiques économiques qui évitent sitôt le retour de la récession.
Bruno Le Maire, à l'université d'été du MEDEF, s'est montré plutôt rassurant pour la France. Croissance 1,2, 1,3. Ouais. Le niveau de croissance de la France est solide, mais le contexte préoccupant. Pourquoi la France résiste mieux à ce stade?
À cause des gilets jaunes, hein, ça c'est extraordinaire. Mais enfin, comme on a réinjecté 17 milliards d'euros dans la machine,
la consommation a soutenu la croissance.
On voit bien, il n'y a pas d'inflation. En réalité, les entreprises ne cherchent qu'à augmenter leur production sur leur donne des débouchés. Tout vient du dérèglement de la Chine, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, a fait qu'une espèce de boule de neige s'est créée, qui a cassé le potentiel de croissance de l'Allemagne. L'Italie, ça fait longtemps qu'ils sont malades. L'Angleterre, c'est auto-créé par le Brexit. Tout ça fait système aujourd'hui, et donc la croissance...
Mais la Chine, c'est un effondrement de croissance.
C'est un effondrement, on est passé 10, 9, 8, 7, 6, ils sont encore
oui,
à 6,
mais... C'est 10, 9, 8, 7, 6, c'est pas mal,
C'est pas mal, mais enfin, ils sont quand même encore à 6, mais on aimerait bien nous avoir 6. Mais vous avez raison, bien sûr, il y a un ralentissement, alors qui, pour le coup, est en partie inexorable. On peut pas croître éternellement à 10% l'an. La Chine est en train de devenir une économie mature, entre guillemets, donc les ressorts de la croissance ne vont plus être l'exportation à tout craint, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Ça devient le marché intérieur. Ça devient beaucoup plus difficile naturellement. Et tout ça entraîne une baisse, un ralentissement du commerce mondial, dont la première victime, la grande économie exportatrice, c'est l'Allemagne, qui elle aussi va devoir repenser, comme la Chine, son modèle de croissance.
Allez, on ouvre le débat avec vous, amis auditeurs d'Inter. Je salue Alain qui nous attend au standard. Bonjour, bienvenue, on vous écoute.
Bonjour France Inter, bonjour Monsieur Cohen et chers collègues. Je suis un littéraire. J'ai une question à vous poser. Le philosophe britannique Scruton a exprimé récemment l'idée suivante. Le populisme, c'est quand le peuple commence à exprimer des idées que les élites ne lui ont pas dictées. Qu'en pensez-vous ?
Merci Alain pour cette question, Daniel Cohen.
Oui, on est très attentif dans le livre justement à faire un usage de ce terme populisme qui soit prudent. Dominique Régnier aussi dans son livre sur le populisme disait populisme souvent dans la bouche des élites, c'est rien d'autre que le mépris des classes populaires. C'est
d'ailleurs anti-système.
On préfère parler de force anti-système quand il s'agit justement de marquer cette détestation des classes populaires, des classes moyennes inférieures à l'égard des partis traditionnels. Et la source, c'est celle que je disais tout à l'heure, le fait que les élites, les partis traditionnels n'ont pas à ce jour trouvé de solution. Et puis, à l'intérieur de ça, il faut parler d'une droite populiste. Pourquoi droite populiste à propos de Trump, de Marine Le Pen et autres? Parce qu'il y a un peu plus que le rejet des élites. Il y a aussi une forme de nationalisme, de xénophobie. Il y a toutes sortes de traits qui peuvent se caractériser. Et c'est là que notre idée de rapport blessé à autrui, de rapport interpersonnel fracturé, nous permet de comprendre, je crois, dans une très large mesure, les poussées xénophobes qui accompagnent cette version-là des forces anti-système. Et je suis d'accord avec vous, on essaye d'être très très prudent pour ne pas faire l'amalgame entre une détestation naturelle de partis qui ont échoué et puis quelque chose de beaucoup plus singulier qui est cette forme, on va dire, populisme, mais c'est-à-dire cette forme plutôt xénophobe du rapport à la politique.
François va vous permettre de nuancer encore plus ou de préciser, Daniel Cohen. Bonjour François, bienvenue.
Bonjour Monsieur de Morin, bonjour Monsieur Cohen. Oui, voilà, je voulais demander à Monsieur Cohen son avis sur le fait que on a pu constater que depuis maintenant de longs mois, les médias et par conséquent l'opinion publique a mis presque sur, oui, je dis même pas presque, a superposé la France insoumise et le Rassemblement national, ex-Front national. Alors, je voulais demander à Monsieur Cohen s'il trouvait cela normal, à son avis d'abord, pourquoi ? Et s'il trouvait cela normal ou injuste, quel était son avis là-dessus ?
Merci François, c'est le cœur du livre dont on parle ce matin. Daniel Cohen vous répond.
Oui, c'est le cœur du livre. La France insoumise et le Front National, les électeurs de la France insoumise et du Front National à l'élection présidentielle de 2017, ont en commun une détestation de la vie politique traditionnelle, c'est certain, et on retrouve ça partout. Podemos, Syriza en Grèce, et Bernie Sanders, etc., ont en commun de détester l'appareil politique traditionnel. Dès qu'on sort de ce constat-là et qu'on rentre un peu dans le détail, par exemple, est-ce que vous pensez qu'un homme fort est la solution au problème de la démocratie aujourd'hui ? Immédiatement, il y a un formidable schisme, un abîme entre les points de vue des uns et des autres. Lorsqu'on leur demande est-ce que l'écologie est quelque chose qu'il faut défendre ? Là encore, il y a un abîme extraordinaire. Le rapport, par exemple, très simplement, à la question des minorités sexuelles. Est-ce que vous pensez que l'homosexualité, c'est bien
pareil,
ou normal ?
Deux mondes, deux planètes.
Deux mondes complètement séparés. D'ailleurs, cette question du rapport à l'homosexualité est intéressante parce que si la xénophobie des partis d'extrême droite était liée à la question économique, c'est-à-dire, en fait, oui, les immigrés contribuent à la dislocation du monde économique et social, quel rapport avec l'homophobie ? Or, c'est très lié. Ça veut bien dire, quand même, que c'est quelque chose qui s'exprime du côté de la droite populiste quand on parle d'autrui. C'est encore une fois, je ne vais pas le répéter, un rapport difficile au reste de la société, un rapport durkheimien en quelque sorte au reste de la société. Et ça, les électeurs de la France insoumise sont totalement opposés à ça. Par rapport à notre indicateur de confiance interpersonnelle, ils sont très hauts. Alors même que leur niveau de revenu est faible, ils ont malgré cela un niveau de confiance interpersonnelle très élevé. C'est ça qui nous fait penser qu'il n'y a pas de socle commun en réalité, même si les dirigeants peuvent y penser parfois, il n'y a pas de socle commun, de base programmatique entre ces deux camps.
Voilà la réponse très précise à votre question, François. La parole à Jean-Pierre. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour France Inter.
On vous écoute, Jean-Pierre.
Oui, alors moi, je voudrais savoir si Monsieur Cohen fait un rapport entre la montée des populismes, dit de gauche et dit de droite, et puis le rejet qu'avait eu la population française du traité ultralibéral européen, qui malgré tout a été adopté en contradiction avec le vote des Français.
Merci Jean-Pierre pour cette question. 2005, oui. 2008, vous dites la crise économique. Est-ce que la vraie date, c'est pas 2005 ?
Alors. On a des encore une fois, on s'appuie sur beaucoup d'enquêtes et notamment la question du rapport à l'Europe. Est-ce que vous pensez que l'Europe, ceci, cela, etc. Alors, on voit là une différence. Les électeurs de la France insoumise ont un rapport tiède à l'Europe, pas ni hostile ni favorable. Est-ce que l'Europe, ceci ou cela, c'est plat comme réponse, alors que c'est très chaud quand on parle de l'écologie, quand on parle de la défense des minorités, que c'est très chaud aussi quand on parle
ça change quand même quelque chose, l'écologie, Daniel Cohen, dont on voit qu'elle est en train le sujet à la bonne hauteur, vivre sur Terre.
Je pense. Mais je termine juste sur ce point de l'Europe pour dire que donc les électeurs de la France insoumise sont tièdes, presque neutres par rapport à ça. C'est pas leur sujet, ni pour, ni contre, en moyenne, évidemment. Alors que les électeurs du Front National, ça c'est le chiffon rouge. L'Europe, la mondialisation, tout ce qui est le reste du monde, en réalité, c'est le chiffon rouge. Alors, je reviens sur l'écologie. Qu'est-ce qui fait que l'écologie, ça clignote surtout à gauche et du côté de la France insoumise, mais tout à fait aussi du côté des électeurs de François Hollande et de Benoît Hamon. Mais parce que l'écologie sollicite au fond les valeurs valeurs classiques de la gauche que la droite lui reproche, une forme d'universalisme. Dans, si on remonte aux origines, mais dès les Lumières et la Révolution conservatrice d'après la Révolution française dans les années au début du 19e siècle, il y a déjà ce conflit que la gauche, elle serait trop universelle. Elle parle de l'homme en général, alors que la droite, elle parle de l'homme en particulier. C'est un peu émancipation et tradition. Je pense que ça n'a absolument pas disparu. Au-delà des extrêmes et des radicalités, cet ancrage de la gauche dans l'émancipation, dans la quête d'un universel, et la droite dans la recherche de la tradition et de la particularité, au fond, c'est un combat noble. On peut être de gauche, on peut
être de droite. Mais aujourd'hui, Yannick Jadot dit ni gauche ni droite.
Oui, mais de facto, son électorat, il trempe son encre, sa plume dans l'encre des canons classiques de la gauche. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, il y a une tradition de droite, voire d'extrême droite, par rapport à l'écologie, le terroir, la terre, le refus de la modernité. Mais de facto, quand on regarde l'éventail politique aujourd'hui, Trump, l'écologie, il en a rien à faire. Salvini, il en a rien à faire. Parce que c'est une universalité trop loin pour eux, alors que la gauche est totalement dans son affaire dans cette question-là.
Passionnant, Daniel Cohen. Merci beaucoup d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Vous co-signez ce livre avec Yann Algan, Elisabeth Besselet, Martial Foucault, Les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social. C'est aux éditions du Seuil.